Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute du programme du Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas. Il est 18h, les titres de cette édition. L'armée nigérienne et Barkhane ont mené une opération antiterroriste près de la frontière malienne contre des positions djihadistes. Barkhane dément par ailleurs l'intervention de l'armée française sur le sol malien. L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako sera au centre d'une réunion ce mardi entre une délégation malienne et le secrétaire général des Nations Unies à New York. À marge de cette rencontre, Antonio Guterres a déclaré que les militaires ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires. Sport et reprise du match retour de tour préliminaire de la Ligue des champions africains entre le Joliba AC et le Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. Annulé pour un manquement, le match retour se joue cet après-midi au stade du 26 mars. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomega. Bonsoir à toutes et à tous. L'insécurité prend de l'ampleur dans le nord du Mali. Plusieurs attaques terroristes et affrontements ont été enregistrés ce week-end. Par ailleurs, l'armée nigérienne et l'opération Barkhane ont mené ce dimanche des combats contre une organisation terroriste à Miam près de la frontière malienne. Ces incidents se sont déroulés au moment où des localités d'Ansongo et Meneka se vident de leur population. Les détails avec Moumine Sendebou.
L'armée nigérienne et l'opération Barkhane ont engagé dimanche des combats contre une branche de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS. Les affrontements ont eu lieu à Miam, une localité nigérienne près de la ville d'Anderabukan, dans la région de Menaka au Mali. Des sources locales, plusieurs morts ont été enregistrés de part et d'autre. Contacté par nos soins, le porte-parole de l'opération Barkhane au Tchad a confirmé que l'armée française a apporté un appui aux armées nigériennes à Miam. Cependant, il dément l'intervention de l'armée française sur le territoire malien. La même source a souligné par ailleurs que deux suspects ont été arrêtés sans donner plus de détails. Ces affrontements ont occasionné des déplacements massifs des populations. Dans la ville de Menaka, ils sont plus de 65 000 personnes réparties entre 11 000 ménages déplacés à vivre dans la détresse et la précarité, selon le gouvernement. La ville de Talatay, dans le cercle d'Ansongo, s'est complètement vidée de ses habitants, selon des élus locaux. Ils précisent qu'au moins 130 ménages ont fui pour Gao et d'autres ont migré pour des localités plus sûres.
Le mouvement nigérien M62 Mutunki Burkini Tare a organisé dimanche une manifestation pour exiger le retrait de la force française Barkhane du territoire nigérien. Les responsables du mouvement reprochent à Barkhane une atteinte à la souveraineté et mépris envers le peuple nigérien, illustré par des tuées multiples de populations civiles. Une situation qui intervient après le départ de Barkhane du Mali. Seydou Abdoulaye, coordinateur national du mouvement M62 Mutunki Burkini Tare, est joint par Studio Tamani.
Notre mouvement a tenu la marche pour la dignité afin d'exprimer sa solidarité au peuple malien et lui apporter son soutien dans la défense de sa souveraineté nationale et également dans la démarche engagée par les autorités de transition de saisir le Conseil de sécurité. Nous avons également tenu à exiger le départ immédiat et sans condition de cette force française Barkhane parce que les activités hostiles de la force française Barkhane vis-à-vis du Mali font de notre pays quelque part un belligérant, ce qui est inadmissible parce qu'elle nous a elle-même donné les preuves de son mépris vis-à-vis du peuple nigérien à travers les tueries des populations civiles à Terak et auxquelles elle s'adonne depuis sa présence ici au Niger.
À Tombouctou, un forestier a été assassiné ce lundi aux environs de 9h près du poste de la gendarmerie par des hommes armés non identifiés. La victime a reçu plusieurs balles au quartier sans fil. Toujours à Tombouctou, des sources sécuritaires, deux gendarmes et un policier ont été blessés dimanche dans une attaque contre le véhicule du checkpoint de Goundam. L'incident a eu lieu aux environs de 7h du matin, au moment où les occupants s'apprêtaient à prendre service. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a été libéré hier dimanche. Selon le bureau de la Cour pénale internationale au Mali, sa peine de 9 ans a été réduite de 2 ans pour bonne conduite. Il avait été condamné pour avoir détruit les mausolées protégés à Tombouctou et des monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Margot Tedesco est la porte-parole de la CPI au Mali. Elle est au micro de Mariam Maïga.
Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a en effet été libéré ce 18 septembre 2022. Il a en effet terminé de purger la peine pour les crimes pour lesquels il avait été reconnu coupable devant la CPI. Pour rappel, Al-Faqi a été reconnu coupable devant les juges de la CPI de crimes de guerre pour la destruction des 9 mausolées de Tombouctou et la porte de Sidi Yaya. Cette condamnation a eu lieu en septembre 2016. Il a été reconnu coupable et eu une sentence de 9 ans, mais les juges ont décidé que sa peine pouvait être réduite à 7 ans. Et étant donné que le temps passé en détention est déduit de la peine, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Al-Mahdi a été libéré.
L'affaire de 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako sera abordée ce mardi 20 septembre en marche de l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York. Le colonel Abdoulaye Meïga, premier ministre par intérim, prendra part à cette 67e session avec d'autres chefs d'État de la CEDEAO et gouvernement. À cette occasion, le colonel Meïga rencontrera le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Draman Meïga pour plus de détails.
Le décor de cette rencontre a été planté par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il a affirmé ce dimanche 18 septembre que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires et qu'il faut trouver la solution pour leur libération. « Je suis en contact avec les autorités maliennes car il faut résoudre ces problèmes », ajoute-t-il. La délégation malienne est conduite par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meïga. En plus de la session au siège de l'ONU, le chef du gouvernement échangera avec le secrétaire général des Nations Unies. Les discussions porteront sur la situation au Sahel, notamment la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali. L'affaire des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier dominera les discussions à en croire les propos d'Antonio Guterres. Rappelons que le jeudi 15 septembre, dans un communiqué, le Mali a qualifié la note du Conseil de sécurité ivoirien de manipulation. La Côte d'Ivoire avait auparavant saisi la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement afin d'obtenir la libération des 46 soldats.
Un papier signé Draman Meïga. Le personnel de l'hôpital de Poingé a entamé 5 jours de grève à compter de ce lundi 19 septembre. Selon les responsables syndicaux, ils revendiquent une meilleure condition de travail au sein de leur service. Qu'en est-il du métier de la bijouterie en argent? Les professionnels du domaine se nourrissent-ils de leur œuvre? Y a-t-il un intérêt ou pas de porter des bracelets et des bagues en argent blanc? La réponse est oui dans la conscience collective, mais pour plus de précisions, suivons quelques réponses dans ce reportage de Aoberti.
Aujourd'hui, on ne gagne plus assez comme avant où les pièces d'argent blanc et les pépites d'or étaient moins chères, a indiqué Zandjougou Fane, bijoutier à la maison de l'artisan de Bamako. Selon lui, la fabrication des bijoux en argent ne rapporte plus.
La bijouterie rapporte, mais aujourd'hui, avec les bijoux chinois, ça nous a affaibli un peu. Ça nourrit notre famille. C'est la raison pour laquelle on est là. Mais la clientèle a beaucoup diminué compte tenu du pouvoir d'achat des clients.
Pourtant, le port des bracelets et des bagues en argent est presque général dans la capitale. Pour les traditionnalistes, Lanzeni Traoré, il y a plusieurs croyances qui encouragent le port de ces bijoux en argent.
Le port des bijoux a deux raisons. Parce qu'en cas de besoin d'argent, tu peux vendre. Les femmes portent aussi pour se rendre belles. En un mot, la finalité, c'est économiser de l'argent. Il y a des bijoux en métal aussi qu'on porte pour prévenir des maladies.
La cherté du métal blanc et l'envahissement du marché par les bijoux chinois ont eu un impact considérable sur les revenus des bijoutiers, ont regretté de nombreux professionnels du domaine.
Sport, football, Ligue des champions africaines de Joliba AC affronte cet après-midi les Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale au stade du 26 mars. La rencontre d'hier a été annulée car l'adversaire de Rouge de Bamako était absent. Les Jolibistes avaient été battus par 2-0 suivant ce reportage de Juliette Koulibaly.
Le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaines entre le Joliba AC et le Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale se joue actuellement au stade du 26 mars. Cette décision a été prise par la commission interclub de la Confédération africaine de football CAF lors de sa réunion de ce lundi. L'instance de football a tranché en faveur de Deportivo Mongomo. Cette décision a frustré certains supporters du Joliba AC. Pour le porte-parole du club malien, l'article 17 et 18 qualifient un forfait quand l'adversaire n'est pas sur le terrain lors du coup d'envoi. Joliba AC, champion du Mali, est condamné de gagner ce match avec d'écart pour valider son ticket de qualification. Rappelons qu'au match aller, joué le 10 septembre dernier, les Rouges de Bamako se sont inclinés 2-0 face au Deportivo Mongomo en Guinée équatoriale.
Ah oui, Juliette Koulibaly, la deuxième mi-temps de la rencontre vient de boucler. Le Joliba AC a battu les Guinéens sur un score de 5-0.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Voilà, ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilo Maïga. Studio Tamani. L'opération spéciale de délivrance des permis de conduire, carte grise, plaque d'immatriculation par le gouvernement a pris fin au mois d'août dernier. Elle concerne principalement les motos, taxis et tricycles. L'initiative visait à réduire les tarifs pour permettre aux conducteurs des tricycles et motos, taxis d'obtenir ces documents. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces dispositions? Le détail avec Khalifa Goïta.
Cette mesure vise à réglementer le secteur des motos, taxis en pleine expansion partout dans le pays. L'acquisition de ces différentes pièces vise à faciliter le contrôle. Mamadou Sow, directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux, estime que le bilan de l'opération spéciale d'immatriculation des engins à 2 et 3 roues est passable au regard des attentes.
Nous avons espéré dans un premier temps immatriculer 40 000 engins à 2 et 3 roues. Pour le permis, nous nous sommes focalisés sur un nombre de 15 000. Au final, les bilans, nous aurons aimé être débordés de boulot, mais nous avons travaillé tranquillement. Sur les 40 000 cartes grises plaques espéré, nous avions immatriculé 1571 motos. C'est dérisoire. Un ensemble de 23 607 certificats de mise à la consommation qu'on appelle les documents douaniers. 9402 ont eu leur permis.
À ces exigences de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux s'ajoutent celles de la mairie du district. Cette décision de la mairie exige aux conducteurs des tricycles et mototaxis un numéro d'identification apposé sur une plaque, un gilet jaune et être bien équipés. En plus, ils doivent avoir les 18 ans révolus, une vignette valide, une carte municipale et une assurance. Adama Traoré, président du syndicat des conducteurs de mototaxi.
Les impôts qui avaient fait une vignette cette année, de 15 000 ou de 18 000 selon l'âge de l'engin. Nous, on a dit que nous ne sommes pas dans le même contexte que les taxis et les sotramas qui ont, eux, une carte de transport. Chez nous, le texte ne prévoit pas ça. Nous avons négocié avec les autorités. Ils ont déplacé le problème en janvier 2023. Nous ne voulons pas du tout cette vignette live. Sinon, avec la mairie, nous prenons les vignettes, les stationnements, les autorisations, il n'y a aucun souci.
Peut-on s'attendre à une autre opération spéciale dans les jours à venir? Mamadou Sow donne des explications.
Dès la fin de l'opération qui est intervenue le 15 août, les tarifs normaux, habituels, s'appliquent. C'est-à-dire que celui qui vient pour son permis de conduire va payer 4 000 francs pour le Russie, 5 000 francs pour la sécurité, 5 750 francs pour le timbre, et les crédits et les plaques sont entre 23 000 à 25 000 francs. De dès que les conditions seront réunies, nous aurons mené, comme nous avions fait en 2021, une opération d'envergure nationale contre les sanctions.
La mise en vigueur de cet arrêté du gouvernement n'a pas encore été précisée. En attendant, la Direction générale des transports terrestres, maritimes et fluviaux invite tous les usagers des engins à 2 et 3 roues à se mettre en règle.